Pourquoi parler du parler en langue? On l'appelle aussi d'ailleurs, vous le savez, c'est le mot grec correspondant glossolalie. Certains parmi vous pourraient penser que c'est beaucoup d'attention donnée à peu de choses, à un sujet minuscule. Certains pourraient se rappeler la parole de Jésus, vous filtrez le moucheron, puis vous avalez le chameau, des sujets plus importants, desquels vous ne vous occupez pas. Ou bien certains pourraient penser à ces théologiens dont on s'est tant moqué à Byzance, qui discutaient du sexe des anges, tandis que les musulmans assiégeaient la ville. Il y a deux raisons, me semble-t-il, qui rendent opportune l'étude de la question du parler en langue aujourd'hui dans notre Église. La première, c'est que c'est un sujet qui se trouve plusieurs fois évoqué dans la Bible elle-même. Ce n'est pas un sujet qui revient très très souvent, c'est vrai, mais quand même, dans une bonne poignée de passages, et dans l'un d'eux de manière prolongée. Or, pour que notre alimentation spirituelle soit bien équilibrée, il faut que nous considérions tout ce que la Bible a retenu pour notre instruction. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous former et pour que nous soyons des hommes et des femmes de Dieu comme il veut que nous soyons. Et puis la seconde raison, c'est que le sujet, même s'il peut paraître un petit sujet, a parfois d'énormes conséquences pratiques, que des églises évangéliques ont été déchirées par des conflits entre frères et sœurs à son propos. Grâce à Dieu, il n'y a pas eu jusqu'à présent, je crois, parmi nous, de tensions et de désaccords, mais la seule manière de prévenir, et mieux vaut prévenir que guérir, c'est de bien discerner quel est l'enseignement de la parole de Dieu, d'être bien au fait de ce qui nous est révélé à ce propos dans le Nouveau Testament. C'est sous l'angle de ce que le Nouveau Testament nous apprend que nous allons prendre le sujet. C'est celui pour lequel je pense être préparé, et il y aurait d'autres aspects peut-être concernant l'expérience contemporaine, sur lequel j'ai peut-être deux ou trois choses à dire, mais à propos desquelles je ne suis pas un expert. Alors je parlerai donc plutôt de l'enseignement du Nouveau Testament. Les passages qui mentionnent le parler en langue, j'ai dit qu'ils n'étaient pas très nombreux, en même temps qu'il y en avait quand même un groupe, sont les suivants. Vous avez trois passages qui se bornent à une brève mention, et deux passages plus substantiels. Les trois passages très brefs sont la conclusion qui a été mise à l'évangile selon saint Marc, où il est question des divers signes qui accompagneront les croyants dans l'évangélisation du monde, très en général, et parmi ces signes, il y a « ils parleront des langues inconnues ». Puis il y a, au chapitre 10 du livre des Actes, dans le récit de la conversion de Corneille, la mention du parler en langue qui a accompagné la descente du Saint-Esprit lorsqu'ils ont entendu le message de Pierre et qu'ils y ont ajouté foi, et la mention également brève au chapitre 19 du livre des Actes du parler en langue lorsque les 12 disciples de Jean-Baptiste qui étaient à Éphèse ont découvert qui était Jésus-Christ et ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont à la fois prophétisé et parlé en langue, nous dit le texte. Alors ces trois textes sont très brefs, puis vous avez le second chapitre du livre des Actes, que tout le monde connaît, le récit de la Pentecôte, qui lui est bien sûr plus développé, c'est l'un des textes principaux, et je compte que vous le connaissez tous, donc je ne vais pas le relire maintenant. Et puis alors un grand ensemble qui se trouve dans la première épître aux Corinthiens, un peu plus loin que le texte que nous avons déjà médité en nous préparant au repas du Seigneur. Les chapitres 12 à 14 de la première épître aux Corinthiens ne parle pas seulement du parler en langue, mais des divers dons spirituels et en particulier du parler en langue. Et je crois que nous faisons bien de relire tout cet ensemble, même si c'est un peu long. J'ai prévu de lire cet ensemble dans la version en français courant. C'est une version qui est bien faite et qui permettra, je pense, mieux de saisir le mouvement général de la pensée de l'apôtre, de l'enseignement qu'il nous donne ici. Et ensuite, alors, dans le détail, nous prendrons la version plus littérale et très exacte, qui est la version à la colombe, que nous utilisons plus souvent parmi nous. Mais je lis Et je vais forcer un petit peu les effets. Je pense que quand on lit l'Écriture sainte, en général, il vaut mieux être discret, ne pas donner trop d'effets de voix, mais pour vous aider un peu à bien saisir la succession des pensées, je vais essayer de forcer un petit peu la dose par rapport à l'habitude. Passons maintenant au sujet des dons du Saint-Esprit. Frère, je désire que vous connaissiez la vérité à propos de ces dons. Vous savez que lorsque vous étiez encore païen, vous étiez entraîné irrésistiblement vers les idoles muettes. C'est pourquoi je veux que vous en soyez bien convaincus. Aucun homme guidé par l'Esprit de Dieu ne peut dire « Maudit soit Jésus ». Et personne ne peut déclarer « Jésus est le Seigneur » s'il n'est pas guidé par le Saint-Esprit. Il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même Esprit qui les accorde. Il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Il y a diverses activités, mais c'est le même Dieu qui les produit toutes en tous. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. L'Esprit donne à l'un de parler selon la sagesse, et à un autre, le même Esprit, de parler selon la connaissance. Ce seul et même Esprit donne à l'un la foi, et à un autre, le pouvoir de guérir les malades. L'Esprit accorde à l'un le pouvoir d'accomplir des miracles, à un autre le don de transmettre des messages reçus de Dieu, à un autre encore la capacité de distinguer les faux esprits du véritable esprit. À l'un, il donne la possibilité de parler des langues inconnues, et à un autre, la possibilité d'interpréter ces langues. C'est le seul et même Esprit qui produit tout cela. Il accorde à chacun un don différent, comme il veut. En effet, le Christ est comme un seul corps qui possède plusieurs parties. Ce corps reste un, bien qu'il se compose de différentes parties. Et nous tous, les juifs ou les non-juifs, les esclaves ou les hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps, par le même Esprit Saint, et nous avons tous eu à boire de ce seul Esprit. Le corps ne se compose pas d'une seule partie, mais de plusieurs. Si le pied disait « Je ne suis pas une main, donc je n'appartiens pas au corps », il ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. Et si l'oreille disait « Je ne suis pas un œil, donc je n'appartiens pas au corps », elle ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. Si tout le corps n'était qu'un œil, comment pourrait-il entendre? Et s'il n'était qu'une oreille, comment pourrait-il sentir les odeurs? En réalité, Dieu a disposé chacune des parties du corps comme il l'a voulu. Il n'y aurait pas de corps s'il ne se trouvait en tout qu'une seule partie. En fait, il y a plusieurs parties et un seul corps. L'œil ne peut donc pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. La tête ne peut pas non plus dire au pied, je n'ai pas besoin de vous. Bien au contraire, les parties du corps qui paraissent les plus faibles sont indispensables. Celles que nous estimons le moins, nous les entourons de plus de soins que les autres. Celles dont il n'est pas convenable de parler sont traitées avec des égards particuliers, qu'il n'est pas nécessaire d'accorder aux parties plus convenables de notre corps. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur aux parties qui en manquent. Ainsi, il n'y a pas de division dans le corps. Mais les différentes parties ont toutes un égal souci les unes des autres. Si une partie du corps souffre, toutes souffrent avec elle. Si une partie est honorée, toutes les autres s'en réjouissent avec elle. Vous tous, vous êtes le corps du Christ. Et chacun de vous est une partie de ce corps. C'est ainsi que dans l'Église, Dieu a établi en premier lieu les apôtres, en deuxième lieu des prophètes, en troisième lieu des enseignants. Ensuite, il y a ceux qui accomplissent des miracles, puis ceux qui ont le pouvoir de guérir les malades, puis ceux qui viennent en aide aux autres, ceux qui dirigent les autres, ceux qui ont le don de parler en des langues inconnues. Tous ne sont pas apôtres, ou prophètes, ou enseignants. Tous n'ont pas le pouvoir d'accomplir des miracles, ou de guérir des malades, ou de parler en des langues inconnues, ou d'interpréter ces langues. Ainsi, désirez les dons les plus importants. Mais je vais vous montrer vraiment le chemin qui est supérieur à tout. Je pourrais être capable de parler les langues des hommes et des celles des anges. Mais si je n'ai pas d'amour, mes discours ne sont rien de plus qu'un tambour bruyant ou qu'une cloche qui résonne. Je pourrais avoir reçu le don de transmettre des messages reçus de Dieu. Je pourrais posséder toute la connaissance et comprendre tous les secrets. Je pourrais avoir toute la foi nécessaire pour déplacer les montagnes. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Je pourrais distribuer tous mes biens et même livrer mon corps pour être brûlé. Mais si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient. L'amour est bon. Il n'est pas envieux. Il ne se vante pas. Il n'est pas orgueilleux. L'amour ne fait rien de honteux. Il n'est pas égoïste, il ne s'irrite pas, il n'éprouve pas de rancune. L'amour ne se réjouit pas du mal, mais il se réjouit de la vérité. L'amour permet de tout supporter. Il nous fait garder en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. L'amour est éternel. Les messages reçus de Dieu cesseront un jour. Le don de parler en des langues inconnues prendra fin. La connaissance disparaîtra. En effet, nous ne connaissons qu'incomplètement. Et nous ne donnons qu'incomplètement les messages divins. Mais quand ce qui est parfait viendra, ce qui est incomplet disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais, je pensais, je raisonnais comme un enfant. Mais une fois devenu homme, j'ai abandonné tout ce qui est propre à l'enfant. À présent, ce que nous voyons est semblable à une image obscure, reflétée par un miroir. Mais alors, nous verrons face à face. À présent, je ne connais qu'incomplètement, mais alors je connaîtrai complètement, comme Dieu me connaît. Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois est l'amour. Cherchez donc, avant tout, à recevoir l'amour. Désirez aussi les dons spirituels, surtout celui de transmettre des messages reçus de Dieu. Celui qui parle dans des langues inconnues ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Par la puissance de l'esprit, il exprime des vérités cachées. Mais celui qui donne des messages reçus de Dieu parle aux hommes pour les faire progresser dans la foi, pour les encourager, pour les consoler. Celui qui parle en des langues inconnues ne fortifie que sa propre foi, tandis que celui qui donne des messages reçus de Dieu fortifie la foi de l'Église entière. Je veux bien que vous parliez tous en des langues inconnues, mais je désire encore plus que vous puissiez donner des messages reçus de Dieu. En effet, celui qui donne de tels messages est plus utile que celui qui parle en des langues inconnues, à moins que quelqu'un ne soit capable d'expliquer ce qu'il dit, afin que l'Église entière en soit fortifiée dans sa foi. Ainsi, frère, je vous le demande, quand je viendrai chez vous, en quoi vous serais-je utile si je vous parle en des langues inconnues? Je ne vous serai utile en rien, à moins que je ne vous communique une révélation, ou une connaissance, ou un message reçu de Dieu, ou un enseignement. Prenons l'exemple d'instruments de musique, comme la flûte ou la harpe. Si les notes ne sont pas données distinctement, comment reconnaîtra-t-on la mélodie jouée sur l'une ou l'autre de ces instruments? Et si le joueur de trompette ne fait pas ressentir un appel clair, qui se préparera au combat? De même, comment pourra-t-on comprendre de quoi vous parlez si le message que vous exprimez au moyen de langues inconnues n'est pas clair? Vous parlerez pour le vent. Il y a bien des langues différentes dans le monde, mais aucune d'entre elles n'est dépourvue de sens. Cependant, si je ne connais pas la langue dans laquelle on s'adresse à moi, celui qui parle cette langue sera un étranger pour moi et je serai un étranger pour lui. Ainsi, puisque vous désirez avec ardeur les dons de l'esprit, cherchez à être riche surtout de ceux qui font progresser l'Église dans la foi. Par conséquent, celui qui parle en des langues inconnues doit demander à Dieu le don d'interpréter les langues. Car si je prie dans de telles langues, mon esprit est bien en prière, mais mon intelligence demeure inactive. Que vais-je donc faire? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. En effet, si tu remercies Dieu uniquement en esprit, comment celui qui est un simple auditeur dans l'assemblée pourra-t-il répondre amen à ta prière de reconnaissance? Il ne peut pas savoir ce que tu dis. Mais si ta prière de reconnaissance est très belle, l'autre n'en est pas fortifié dans sa foi. Je remercie Dieu de ce que je parle en des langues inconnues plus que vous tous. Mais devant l'Église assemblée, j'aime mieux dire 5 mots compréhensibles afin d'instruire les autres que de prononcer des milliers de mots en des langues inconnues. Frères, ne soyez pas comme des enfants dans votre façon de raisonner. Soyez des enfants en ce qui concerne le mal, mais soyez des adultes quant à votre façon de raisonner. Voici ce que déclare l'Écriture. « C'est par des hommes de langue étrangère que je m'adresserai à ce peuple, dit le Seigneur. Je leur parlerai par la bouche d'étrangers, même alors ils ne voudront pas entendre. » Ainsi, le don de parler des langues inconnues est un signe pour les non-croyants, mais ne l'est pas pour les croyants. Au contraire, le don de transmettre des messages reçus de Dieu est un signe pour les croyants, mais ne l'est pas pour les non-croyants. Supposons donc que l'Église entière s'assemble et que tous se mettent à parler en des langues inconnues. Si des gens simples ou des non-croyants entrent là où vous vous trouvez, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous donnent des messages reçus de Dieu, et qu'entre un non-croyant ou un homme simple, il sera convaincu de son péché à cause de ce qu'il entend. Il sera jugé par tout ce qu'il entend en ses pensées secrètes, soudain mises en lumière. Alors il se courbera le visage contre terre et adorera Dieu en disant « Dieu est vraiment parmi vous ». Que faut-il en conclure, frère? lorsque vous vous réunissez pour le culte. L'un de vous a un cantique, un autre un enseignement, un autre une révélation, un autre un message en langues inconnues, un autre encore l'interprétation de ce message. Tout cela doit aider l'Église à progresser dans la foi. Si l'on se met à parler en des langues inconnues, il faut que deux ou trois au plus le fassent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète ce qu'ils disent. S'il ne se trouve personne pour donner une telle explication, que chacun d'eux renonce alors à s'exprimer à haute voix dans l'assemblée, qu'il parle seulement à lui-même et à Dieu. Quant à ceux qui reçoivent des messages de Dieu, que deux ou trois prennent la parole et que les autres jugent ce qu'ils disent. Mais si une autre personne présente reçoit une révélation de Dieu, il faut que celui qui parle s'interrompe. Vous pouvez tous donner, l'un après l'autre, des messages reçus de Dieu, afin que tous soient instruits et encouragés. Ceux qui transmettent de tels messages doivent rester maîtres du don qui leur est accordé, car Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans le désordre, mais dans la paix. Comme dans toutes les églises du peuple de Dieu, il faut que les femmes gardent le silence dans les assemblées de l'Église. Il ne leur est pas permis d'y parler. Comme le dit la loi de Dieu, elles doivent être soumises. Si elles désirent un renseignement, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Il n'est pas convenable pour une femme de parler dans une assemblée de l'Église. Ou bien serait-ce de chez vous que la parole de Dieu est venue? Ou serait-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un pense être un messager de Dieu, ou pense avoir un don spirituel, il doit reconnaître que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Mais s'il ne le reconnaît pas, qu'on ne tienne pas compte de lui. Ainsi, mes frères, votre désir doit être de transmettre des messages reçus de Dieu, mais n'interdisez pas de parler en des langues inconnues. Que tout se fasse avec dignité et avec ordre. Voilà ce long passage. J'espère que de le lire dans une autre version, et comme j'ai essayé de le faire, vous a un petit peu rafraîchi dans la manière de suivre le mouvement de l'exhortation. Trois questions, me semble-t-il, doivent être traitées. Quoi, pourquoi, pour qui? Ce sont les questions principales, en tout cas, à propos du don de parler en langue. La traduction ici, pour expliquer, ajoute le mot inconnu. Il n'est pas dans le texte original. C'est un mot ajouté dans la traduction en français courant. Le texte qui, sans doute, nous montre le mieux ce que pouvait être le don de parler en des langues inconnu, le moins connu est dans Marc 16, c'est le récit de la Pentecôte, au chapitre 2. Nous voyons là les 120 qui sont réunis, comme Jésus le leur a recommandé, qui prient le jour où l'on célébrait la fête de la Pentecôte, et sans doute dans le judaïsme à l'époque où on commémorait la conclusion de l'Alliance lors de l'Exode, le Saint-Esprit fait irruption, comme Jésus-Christ l'avait promis, et Jean-Baptiste avant lui, des langues de feu, des flammes qui avaient une forme de langue, descendent sur ces 120, et ils se mettent à s'exprimer dans des langues qu'ils ne connaissaient pas, à dire les louanges de Dieu, à célébrer sa grandeur, dans des langues qu'ils n'avaient pas apprises, et que sans doute ils ne comprenaient pas eux-mêmes, puisque ces langues, ils ne les connaissaient pas. Des langues qui existaient réellement, de leur temps. Alors certains qui les ont vus, qui ont été attirés par le bruit, ont dit, mais enfin, ils sont fous, ou ils sont ivres, ils sont pleins de vin doux. Ce à quoi Pierre, peu après, a répondu, ça ne tient pas, ça comme explication, nous sommes tôt le matin, il était clair que ce n'était pas de l'ivresse. Vous voyez, certains n'ont pas compris, ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est? Mais d'autres, qui connaissaient ces langues, comme c'était la Pentecôte, il y avait des gens qui étaient venus de tous les pays du bassin méditerranéen, ont reconnu leur langue maternelle, les Parthes, les Élamites. Quoi, ils sont en train de parler dans ma langue, de dire les louanges de Dieu dans ma langue. Comment ça se fait? Ce sont des Galiléens, des Israélites qui habitent la région nord. Ils n'ont pas appris ma langue, j'habite à des milliers de kilomètres. Le miracle a été selon que l'Esprit leur donnait à chacun de s'exprimer, comme dit le texte. Le miracle n'a pas été dans les oreilles des auditeurs, mais il a bien été dans l'expression des 120, le miracle a été qu'ils ont dit les louanges de Dieu dans des langues qu'ils n'avaient pas apprises par miracle. Des langues qui leur étaient inconnues, à eux, leur ont servi à proférer une parole de louange. Je pense qu'on peut définir le don biblique du parler en langue comme une capacité que le Saint-Esprit accorde surnaturellement à des gens qui ne connaissent pas une certaine langue, de s'exprimer par elle, et au moins généralement, C'est le seul cas qui me semble évoqué dans l'Écriture, au moins généralement, dans l'action de grâce ou la louange. Voilà ce qui me paraît. Le parler en langue, d'après ce passage, quand on lit le chapitre 10 du livre des Actes, on voit que ça a certainement été la même chose avec Corneille. Car Pierre a dit que les choses se sont passées comme pour eux au commencement. Comme pour eux au jour de la Pentecôte. Donc, et puis il a dit qu'il célébrait les grandeurs de Dieu, les grandes choses divines. Là, il ne semble pas qu'il y ait eu des gens de tous les pays pour comprendre ces langues. Mais ils se sont rendus compte que c'était la louange de Dieu qu'exprimaient Corneille et ses amis lorsqu'ils ont donc reçu cette possibilité, cette capacité. Certainement, en acte 10, c'était la même chose. En acte 19, la mention est si brève qu'on ne peut pas savoir, mais ça paraît vraiment, puisque le parallélisme est net, la même chose, sans doute aussi. Il y a pas mal d'auteurs, évangéliques ou non évangéliques, qui pensent pourtant que dans la première épître aux Corinthiens, ce n'était pas la même chose, ou plutôt à Corinthe, que le don évoqué par l'apôtre Paul lorsqu'il écrit aux Corinthiens est un don de type nettement différent, non pas le miracle de parler dans une langue réelle, existant vraiment quelque part sur la terre, mais simplement la capacité de faire sortir des sons souvent mélodieux, des chaînes de syllabes qui n'appartiennent pas véritablement à une langue, qui ressemblent à des langues seulement, mais qui marquent le débordement de l'âme, qui marquent le ravissement de celui qui est en communion intense avec le Seigneur. Beaucoup de gens pensent que Paul a en vue ce type de parler en langue lorsqu'il écrit aux Corinthiens. Je prends ici dans un livre, mais il y en aurait beaucoup d'autres qu'on pourrait citer, d'un grand prédicateur canadien, Oswald Sanders. Je prends ici ce qu'il dit. Le parler en langue ne signifiait pas s'exprimer en un idiome que l'on n'avait pas appris par les moyens habituels, mais plutôt dans un état d'extase et de ravissement. Pour appuyer cette idée, car Corinthe, ce n'était pas comme le jour de la Pentecôte, ceux qui adoptent cette théorie remarquent tous les contrastes entre la Pentecôte et ce que nous avons dans les chapitres aux Corinthiens. Voici la liste des raisons que cet auteur que je viens de citer nous propose. Il dit à la Pentecôte, tous parlaient en langue, pas à Corinthe. L'apôtre Paul nous le dit clairement. À la Pentecôte, chacun comprenait. À Corinthe, personne ne comprenait. À la Pentecôte, ceux qui s'exprimaient parlaient à des hommes. À Corinthe, ils parlaient à Dieu, comme l'apôtre Paul le dit bien au début du chapitre 14. À la Pentecôte, pas besoin d'interprète. À Corinthe, il y avait besoin, pour qu'on comprenne, d'un interprète. À la Pentecôte, nous avons eu un signe ou un témoignage pour les croyants. À la Pentecôte est aussi en acte 10, puisque le parler en langue de Corneille a servi de signe pour les croyants, pour Pierre et pour ceux qui étaient avec lui, a servi de signe pour qu'ils comprennent que l'Esprit était donné aussi aux païens, à Corneille, qui se convertissait à Jésus-Christ. Alors qu'au contraire, à Corinthe, il nous est dit que c'est un signe pour les non-croyants. À la Pentecôte, le don du parler en langue a eu pour résultat le salut d'un grand nombre. Alors qu'à Corinthe, Paul nous dit que le parler en langue n'édifie, ne fortifie dans la foi que celui qui parle en langue. À la Pentecôte, les étrangers sont étonnés et attirés. À Corinthe, au contraire, Paul dit que si des étrangers arrivent, ils diront, ils sont fous ceux-là, et ils s'en iront, ils seront repoussés. À Corinthe, à la Pentecôte, il y avait harmonie parfaite, et à Corinthe, la confusion régnait. Voilà les contrastes que cet auteur établit entre les deux pour dire que ce n'était pas la même chose. Alors je ne crois pas que ces raisons soient des raisons bien solides. Je ne crois pas que le plaidoyer soit convaincant. Et je ne suis pas seul à rejeter cette théorie des deux parler en langue différents. Par exemple, le pasteur et auteur bien connu John Stott est du même avis que celui que je vais vous exprimer. Prenons ces contrastes. En fait, je crois qu'il y a des coups de pouce qui créent de fausses oppositions ici. À la Pentecôte, tous parlaient, à Corinthe seulement quelques-uns. À la Pentecôte, pas tous, tous les 120, oui, mais les 3000, c'est pas dit du tout. Et puis, que Dieu l'ait accordé une fois à tous, bon, tous du premier groupe, ça ne signifie pas que ce soit un autre don que quand Dieu l'accorde à quelques-uns. Ensuite, comme régime dans l'Église, ce n'est pas suffisant pour dire que ça fait une différence de nature entre les deux dons. À la Pentecôte, chacun comprenait, et à Corinthe, personne. Pas du tout, à la Pentecôte, tous ne comprenaient pas, mais seulement les Parthes comprenaient ce qui était dit en Parthes. Seulement les Élamites comprenaient ce qui était dit en Élamite, et puis il y avait des gens qui ne comprenaient rien du tout, puisqu'ils disaient « ils sont pleins de vin doux ». Donc c'est pas vrai, c'est pas du tout un contraste qui soit vraiment entre les deux passages. À la Pentecôte, il parlait à des hommes, et à Corinthe, il parlait à Dieu, mais pas du tout. Il ne parlait pas à des hommes, donc, à la Pentecôte, c'est pas dit du tout. Ceux qui comprennent le Parthe ou l'Élamite disent « ces gens-là, Galiléens, disent dans notre propre langue les louanges de Dieu. » Ils parlaient à Dieu, ils louaient Dieu. Ce n'était pas du tout un discours adressé aux hommes, donc c'est un faux contraste que Sanders ici veut établir. À Corinthe, la Pentecôte, il n'y avait pas besoin d'interprète, dit Sanders. Il n'y avait pas besoin d'interprète parce qu'il y avait des Parthes et des Élamites. Il se trouvait que grâce à la fête, il y avait des gens de tous ces pays. Mais ça ne change pas la nature du don. À la Pentecôte, nous avons eu, et avec Corneille aussi, un signe pour les croyants. Alors que Paul dit que c'est un signe pour les non-croyants à Corinthe. Nous allons revenir sur cette question, j'espère que nous aurons le temps. Le passage de l'apôtre Paul, où il dit que c'est un signe pour les non-croyants, n'est pas facile à comprendre. Il y a beaucoup de gens qui se sont cassés les dents sur ce verset, au chapitre 14 de la première aux Corinthiens. En tout cas, Paul tire la conclusion qu'il ne faut pas l'employer devant les non-croyants. Alors, c'est vous dire que c'est pas très très simple comme pensée à saisir. Il dit c'est un signe pour les non-croyants, mais il ajoute immédiatement, alors, s'il y a des non-croyants, surtout ne parlez pas en langue. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Nous aurons à le voir. Mais, vous voyez, ça ne donne pas matière à un grand contraste entre acte 2 et puis 1 Corinthiens. À la Pentecôte, le résultat a été le salut de beaucoup, et à Corinthe, seul celui qui parlait en langue s'édifiait. Ce n'est pas directement le parler en langue qui a conduit au salut le jour de la Pentecôte. C'est la prédication de l'évangile par Pierre. C'est après le discours prophétique inspiré de Pierre que ces hommes ont eu le cœur vivement touché et qu'ils ont dit « frère, que ferons-nous ?» Donc on ne peut pas dire que c'est le parler en langue qui a été le moyen de l'évangélisation. À la Pentecôte, les étrangers ont été étonnés et attirés, et Paul pense qu'à Corinthe, il dirait « vous êtes fous » ou « ces gens sont fous ». À la Pentecôte, il y a eu aussi des gens qui ont réagi négativement, comme je le rappelais, en disant « ils sont pleins de vin doux ». Donc de nouveau, vous voyez, ça ne fait pas un tel contraste. À la Pentecôte, harmonie parfaite, d'accord. À Corinthe, la confusion, sans doute, mais ce n'était pas à cause du don, ce n'était pas à cause de la nature du don, la confusion. C'est parce que les Corinthiens ne respectaient pas la pensée divine à l'égard de ce don, qu'ils en faisaient un mauvais usage. Mais on ne peut pas dire que ce soit une autre nature du don. Alors vous voyez, toutes ces raisons, finalement, elles partent en poussière quand on les examine. Ces raisons de faire une opposition entre acte 2 et 1 Corinthiens 12 à 14. Alors pourquoi les gens font-ils cette opposition quand même? Bon, je crois que la vraie raison, c'est qu'il existe un parler en langue en dehors de l'Église chrétienne, chez les mormons, dans pas mal de sectes, parfois même chez certains païens, bien que ce soit relativement rare. Il existe un parler en langue que des psychologues ont bien étudié, ou des anthropologues. J'ai en particulier lu un ouvrage très important d'un professeur d'anthropologie et de linguistique à l'Université de Toronto, William Samarin. Il existe un parler en langue produit par des mécanismes naturels que l'on trouve dans diverses sectes, qui, lui, n'est qu'un simulacre de langage, n'est pas une vraie langue, mais une simple imitation. Des sons sortent, il paraît d'ailleurs qu'il arrive à des enfants de produire des séries de sons pour s'amuser comme ça. Il paraît que chacun a le mécanisme en lui qui pourrait faire jouer pour produire ces imitations de langue, ou bien qui avaient des amis. Dans le livre de Samarine, c'est mal cité, des amis qui s'amusaient à dialoguer, sans signification bien sûr, mais à dialoguer dans cette espèce de pseudo-langage, de cette imitation d'une langue qui n'est pas une langue, qu'ils appelaient entre eux l'alakimki. Ils tenaient de grands discours, en sortant des séries de syllabes, ils étaient devenus des virtuoses, mais ce n'était pas une vraie langue. Alors ça, ça existe. Et si beaucoup de gens pensent qu'à Corinthe c'était ça, c'est qu'ils se disent, voilà, ça c'est un phénomène bien connu, répandu quand même dans toute l'histoire de l'humanité. Et comme Paul semble être quand même un peu réticent, tout en disant que lui-même le pratique, comme il semble avoir quelques réticences, ça doit plutôt être ça, que le grand miracle de la Pentecôte. Mais je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit dans les paroles de Paul qui invite à cette pensée. Je vous propose plutôt de dire, bien sûr, il existe un faux parler en langue qui n'est que de nature psychique, qui est produite par des mécanismes qui appartiennent simplement à la constitution de l'homme, qu'il peut faire jouer par jeu ou autrement. Mais le parler en langue dont nous parle le Nouveau Testament, dont il est question partout où il est question de parler en langue dans le Nouveau Testament, lui, c'est un don du Saint-Esprit, c'est autre chose, ça ne vient pas des ressources de l'homme, des mécanismes du psychisme humain, c'est un don du Saint-Esprit qui, par miracle, donne de s'exprimer dans une vraie langue. D'ailleurs, si on dit une langue, moi je serais gêné si ce n'était pas une vraie langue, mais une simple série de syllabes dénuées en elles-mêmes de signification. Et j'ajoute que dans les passages de Paul que nous avons lus, il me semble qu'il y a au moins trois données qui nous montrent que pour lui ce sont de vraies langues. Des langues qui se parlaient réellement, pourvues de signification. Il y a, au chapitre 13, l'évocation qu'il fait du don des langues, parce que manifestement, il s'agit des dons dont il a parlé au chapitre 12. Quand Paul dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien », il commence tout un paragraphe où il montre que posséder les dons sans avoir l'amour, ça équivaut à zéro. Si c'est des dons qu'il parle, des dons spirituels. Donc quand il dit « quand je parlerai les langues des hommes et des anges », il fait référence au don des langues. Il dit « les langues des hommes et des anges ». Alors, je vais revenir un instant sur l'addition « et des anges ». Mais en tout cas, il y a les langues des hommes. Il ne pense pas du tout qu'il s'agisse de simples séries de syllabes projetées comme en gerbes éblouissantes. Non, vraiment des langues. Alors il ajoute « et des anges ». Est-ce que ça veut dire qu'en plus des langues des hommes, en plus du parthe, de l'élamite, de l'assyrien, etc., il peut y avoir des langues angéliques? Je ne voudrais pas l'exclure. En même temps, je ne pense pas que ce verset nous permette de l'affirmer. Je dirais que c'est ni exclu, ni affirmé. Parce qu'on peut très bien penser que Paul, évoquant ce don, pour dire que sans l'amour ce n'est rien, en rajoute face à un mouvement oratoire, en disant « quand j'aurai ce don de parler les langues des hommes, et quand même, ce seraient des anges, mais encore plus, si je n'ai pas l'amour, zéro. » Donc, il ne dit pas carrément que celui qui parle en langue parle parfois des langues angéliques. Il ne le dit pas. On peut le penser, mais on ne peut pas être sûr, c'est le seul passage qui évoquerait cela. Partout ailleurs, il ne s'agit que de langues humaines, comme nous l'avons vu déjà pour le jour de la Pentecôte. Deuxième point dans ce passage que nous avons lu, l'apôtre Paul, dans son plaidoyer pour que les Corinthiens préfèrent le don de prophétie, le don de donner des messages clairs, intelligibles, de la part de Dieu, dans son plaidoyer, dit « Mais si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat ? Si vous ne dites pas une parole qui puisse comprendre, alors vous parlerez en l'air, vous parlerez pour le vent. » Mais alors il prévoit qu'il va y avoir une objection au verset 10. Il prévoit que les gens vont lui répondre « Oui, mais toutes les langues qui sont dans le monde ont leur sens. C'est pas dépourvu de sens. » Et il est d'accord, mais il répond « Oui, seulement si je connais pas, c'est tout comme. Si quelqu'un parle une langue que je ne connais pas, bien qu'elle soit pourvu de sens en elle-même. Pour moi, ce sera dépourvu de sens. Il sera un barbare pour moi, et je serai un barbare pour lui si je lui parle. » Et la manière dont Paul prévoit l'objection au verset 10 et il répond au verset 11 montre qu'il a en vue des langues humaines qui ont un réel sens, qui sont des langues parmi les langues de par le monde. Autrement, il n'aurait aucune raison de parler de ces langues qui sont par le monde. Et troisième raison qui montre que Paul a en vue des langues réelles, la citation qu'il fait du livre d'Ésaïe. Au verset 21, il fait une citation d'Ésaïe 28, où Dieu dit, c'est par des hommes d'une autre langue, par des lèvres d'étrangers, vous ne comprendrez pas, vous les Israélites, que je parlerai à ce peuple. Or, dans le contexte d'Ésaïe 28, c'est très clair, il s'agit des Assyriens, il s'agit des envahisseurs. Les Israélites n'ont pas voulu écouter les prophètes, qui leur parlaient en hébreu un langage compréhensible, et bien Dieu alors va parler à ce peuple, en jugement, pour leur incrédulité, en leur parlant par ces messagers casqués, bottés, que seront les Assyriens, qui parleront un langage incompréhensible. Voilà le texte que Paul cite. S'il cite ce texte, où il s'agit donc de l'Assyrien, ça montre bien que pour lui, ce n'est pas une simple série de syllabes dépourvues de sens en elles-mêmes. Paul a en vue des langues réelles. Alors, en ce qui concerne ce qui est un simulacre de parler en langue, produit par des mécanismes psychiques, je pense que ce n'est pas forcément un mal, hein. C'est une réalité qui appartient à l'ordre de la nature. Des possibilités de jouer avec les fonctions psychiques que le Seigneur a mises dans notre constitution. Mais ce n'est pas le don miraculeux du Saint-Esprit. On peut peut-être mentionner juste très très brièvement en passant ici que certains s'inquiètent beaucoup des possibilités d'un parler en langue miraculeux, mais produit par des esprits mauvais et non pas par le Saint-Esprit. Est-ce que cela existe aussi? Je remarque simplement deux choses à ce propos. Premièrement, le Saint-Esprit dans l'Écriture n'en parle pas. Le Nouveau Testament ne le dit jamais. Ça n'exclut pas, mais il n'en est pas question dans le Nouveau Testament. Et deuxièmement, il semble qu'il y ait eu un certain nombre d'expériences faites par des hommes de Dieu sérieux qui l'ont rapporté, qui montrent que cela existe. Que dans l'histoire, il y a eu des cas. Je me rappelle personnellement, parce que il faut essayer de donner des témoignages de gens qui ont vraiment été proches. Le pasteur Gottfried Osei Mensah, que j'ai assez bien connu, qui a été secrétaire général des GBU d'Afrique anglophone pendant tout un temps, puis qui est devenu le secrétaire général du comité de Lausanne, duquel j'étais parti, donc je l'ai bien connu. Je me rappelle racontant que dans un groupe d'études bibliques au Nigeria, il y avait eu, il la connaissait lui personnellement, une jeune fille qui, chrétienne pourtant, mais qui avait dans une autre langue, une langue qu'elle ne connaissait pas, émis, alors qu'elle croyait, elle, dire les louanges de Dieu en esprit, qui avait émis d'horribles blasphèmes dans une langue que quelqu'un pouvait comprendre. Voilà, j'ai eu un cas. Je ne dis pas que ce soit fréquent, je pense que les cas purement psychiques sont beaucoup plus fréquents, mais il est bon de savoir que cela existe, sans doute aussi, bien que la Bible n'en parle pas dans aucun passage que j'ai pu voir. Deuxième question, pourquoi? Quel est le sens de ce don? D'abord, première chose à dire, c'est un don de Dieu, un don du Saint-Esprit, donc c'est un bien qu'il doit apporter. Il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas considérer que le parler en langue, c'est quelque chose de négatif en soi. Il arrive, je crois que c'est sûr, nous devons dire les choses franchement entre nous, que les chrétiens évangéliques non pentecôtistes aient à l'égard du parler en langue une attitude purement négative, d'emblée. On a peur, si on apprend que quelqu'un parle en langue, on considère que c'est plutôt une mauvaise note. Et je pense que ça, ce n'est pas admissible. L'apôtre Paul parlait en langue, il nous le dit. Et c'est un don du Seigneur. Donc il faut que nous admettions, franchement, que c'est une chose qui peut apporter des richesses. Première fonction que certains lui attribuent, en gros la tradition pentecôtiste, ce serait le signe obligatoire, ou au moins normal, du baptême du Saint-Esprit. Voilà ce que beaucoup pensent dans la doctrine officielle du vieux pentecôtisme, en tout cas. Je ne vais pas prendre ici toute la question du baptême du Saint-Esprit. Elle a déjà été traitée dans notre Église. Je Je me rappelle, quelques-uns parmi les anciens se rappellent aussi, une prédication de M. Adjé le jour de Pentecôte, qui était d'une puissance extraordinaire, une démonstration extrêmement solide sur la base de l'Écriture à ce sujet. Nous ne pensons pas que la Bible enseigne le baptême du Saint-Esprit comme une seconde expérience, mais comme un aspect de notre introduction en la communion de Jésus-Christ, notre entrée dans son alliance. Mais nous ne considérons pas cette question aujourd'hui. Est-ce que le parler en langue se présente dans la Bible comme le signe que l'Esprit est donné ou que l'Esprit baptise le croyant? Il me semble qu'il n'y a pas de base suffisante pour le dire dans le Nouveau Testament. Il n'y a aucun passage qui dise ça. Vous avez seulement trois textes. Le jour de la Pentecôte, il fut rempli du Saint-Esprit et il parlait en des langues qu'il ne connaissait pas. Corneille et Pierre a dit, comme pour nous au commencement, Pentecôte, il fut rempli du Saint-Esprit et il parlait en des langues qu'il ne connaissait pas. Corneille et Pierre a dit, comme pour nous au commencement. Donc pas comme chaque fois que quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, mais comme pour nous au commencement. Corneille et puis les 12 ou environ 12 d'Éphèse. Alors trois cas où il ne nous est pas dit que c'est comme ça que c'est normal. Simplement trois cas où ça nous est raconté, alors qu'il y a beaucoup d'autres cas de conversion qui sont rapportés dans le livre des Actes. Et nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit. Donc quand quelqu'un dit Jésus est Seigneur, c'est que l'Esprit l'a pris en charge. Et trois cas sur tous ceux qui sont racontés dans le livre des Actes d'entrer dans la communion de Jésus-Christ, dans les bénédictions de l'Esprit, ça ne suffit pas pour dire c'est la règle, c'est ce qui doit se produire. Et en plus alors, nous avons ce texte de la première épître aux Corinthiens, où l'apôtre Paul, au chapitre 12, nous dit à la fois, nous avons tous été baptisés en un seul esprit, et puis dit, tous parlent-ils en langue? Non. Alors il me semble que si le baptême du Saint-Esprit était nécessairement accompagné du signe de parler en langue, Paul n'aurait quand même pas pu parler comme ça. Ça aurait été, pour lui, donner des verges pour se faire battre par les gens de Corinthe qui ne voulaient pas l'écouter. Ils auraient tout de suite pu répliquer. Donc je pense que la manière dont Paul pose la question, tous parlent-ils en langue? Non, montre bien que ce n'est pas un signe obligatoire d'une expérience particulière faite dans l'esprit. Ça peut accompagner toute expérience faite dans l'esprit. Si Dieu accorde le don, il l'accorde comme il le veut. Il ne s'agit pas du tout de nier que ce puisse être le cas. Mais ce n'est pas sa fonction régulière. Ce n'est pas pour ça que Dieu l'a institué. Alors, ce que dit la première épître aux Corinthiens est assez clair. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Une première fonction du don des langues, c'est de permettre l'édification de celui qui l'a reçu. Comme tous les autres dons d'ailleurs, il contribue à fortifier dans la foi, à enrichir la vie spirituelle de celui qui l'a. Je crois que ça ne peut pas faire question, c'est très clair. Mais alors la vraie question c'est pourquoi, comment, si nous essayons de comprendre un petit peu mieux. Je crois qu'il y a une idée fausse qui est très très répandue à ce sujet, et je voudrais donc avertir contre. Beaucoup ont l'idée que c'est parce que l'intelligence est mise hors circuit, parce que ce n'est plus la pensée conceptuelle, que c'est parce qu'on se laisse emporter sans penser que c'est une prière meilleure et que donc on s'édifie soi-même davantage. Beaucoup, beaucoup le disent, je l'ai vu dans plusieurs livres cela. Or je crois que ce n'est pas du tout là une pensée biblique. C'est une pensée qui est beaucoup plus liée aux idées modernes. Vous savez que le climat moderne, s'il est rationaliste dans le travail de la science, est très opposé à la raison. Les gens qui sont obligés de suivre la raison pour appliquer leur technique, pour gérer leur vie, mais ils sont au fond très mécontents de devoir se plier à cette discipline, et alors pour le reste, ils sont très hostiles à la raison. Ils démissionnent de la raison, comme disait Francis Schaeffer. Ils cherchent les choses les plus irrationnelles, ils se défoncent, s'éclatent, tout ce qui est opposé à l'ordre de la raison. Et je crois que beaucoup de croyants sont gagnés par ce climat, et ils pensent que c'est une vie spirituelle meilleure si elle n'est pas conduite par la raison, par une intelligence, renouvelée même par le Seigneur, mais si la raison est mise entre parenthèses, si elle est inactive ou sans fruit, comme dit l'apôtre Paul, Et si alors, c'est purement les profondeurs de leur inconscient qui jaillissent. Mais moi, je remarque que Paul, lui, raisonne juste en sens contraire dans ce même passage. Il leur dit, je prie en langue, mon esprit est en prière, mon intelligence est inactive, ou sans fruit, littéralement. Je prie ou je chante en langue, parce que je crois qu'il admet aussi cela, l'idée de que ce puisse être chanté avec une mélodie, mon intelligence est sans fruit. Alors il ne dit pas, alors c'est bien mieux. Il dit au contraire, je prierai avec mon esprit, mais aussi avec mon intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi par l'intelligence. Pour Paul, c'est une raison plutôt de préférer le don de prophétie où l'intelligence est active, d'ajouter l'intelligence aux autres fonctions de l'esprit au lieu de la court-circuiter. Donc pour Paul, c'est plutôt un moins du parler en langue s'il n'y a pas l'intelligence. Au contraire de ces modernes qui pensent que c'est un plus. Alors ça ne veut pas dire que parler en langue ne donne pas de bien, mais la raison pour laquelle il édifie donc n'est pas que l'intelligence est court-circuitée. Au contraire, c'est plutôt un moins, ça. C'est autre chose. Alors quelle autre chose? Je n'ai pas de raison très précise à donner, mais je crois que c'est très simple. C'est le fait que le Saint-Esprit fait un miracle en nous. Que nous sommes le siège de quelque chose que Dieu lui-même opère, qui dépasse toutes nos possibilités à nous. Nous sommes en communion avec Dieu par une action qu'il exerce en nous. Il exerce aussi son action lorsque notre intelligence fonctionne, mais il l'exerce lorsque quelqu'un parle en langue. Et c'est bienfaisant. Il y a vraiment une édification de l'homme en Christ. Voilà, me semble-t-il, ce qu'on doit dire à ce propos. C'est ce qui me semble impliquer, bien que tous ne soient pas d'accord parmi les évangéliques, que pour l'exercice privé du don des langues, il n'y ait pas la limitation que Paul place pour l'exercice dans l'Église. Puisque celui qui parle en langue, même s'il ne comprend pas, s'édifie lui-même, il est le siège d'une action de Dieu qui lui fait du bien, alors il est tout à fait permis de parler en langue chez soi, sans problème. Mais c'est dans l'Église où il faut dire des paroles intelligibles qui pourront édifier tous les autres en même temps. Il pourra y avoir communication. Et c'est pourquoi, s'il n'y a pas d'interprète, quelqu'un capable de traduire, alors, à ce moment-là, il faut se taire, que chacun parle à soi-même, et pas un murmure qui crée une ambiance un peu trouble, pas qui se taise, dit l'apôtre. Bon. Mais ce n'est pas la seule fonction. Il y a aussi ce fameux passage sur pour les croyants et pour les non-croyants. À première vue, l'apôtre Paul parle de façon qui nous semble contradictoire au verset 22. Les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Et puis il dit, ensuite, au verset 23, si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'ils surviennent de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Donc ne le faites pas. Si c'est pour les non-croyants, pourquoi dit-il, ne le faites pas? Tout dépend du sens de ce pour. Et je vous donne simplement la conclusion d'études qui ont été faites, je crois, très bien par des théologiens évangéliques assez récemment. Quand Paul dit c'est un signe pour les non-croyants, il ne veut pas dire un signe qu'il faut présenter aux non-croyants. C'est un signe de jugement qui correspond à des gens qui sont non-croyants. Quand Dieu parle un langage intelligible, ça veut dire qu'il manifeste son intention de sauver. Parce que c'est par le message que nous sommes sauvés. Mais quand la parole de Dieu vient à quelqu'un comme quelque chose qu'il ne comprend pas, c'est le signe, en principe, c'est le signe qu'il est écarté, il est repoussé. Et c'est donc un signe de jugement, de l'incrédulité. Comme en Ésaïe 28, ces Assyriens, qui sont en quelque sorte les messagers du jugement de Dieu, le fait qu'ils parlent cette langue étrangère est un signe de jugement pour les non-croyants de Samarie, de l'Israël du Nord, qui, en temps de larmes, en quelque sorte, leurs condamnations sont repoussées. Alors, dans le Nouveau Testament, nous ne souhaitons pas que les gens entendent leur condamnation. Comme Dieu lui-même, dans le temps de sa patience, nous voulons que le plus grand nombre accède à la connaissance de la vérité. Donc nous ne voulons pas que les gens soient comme repoussés par une parole qui dénonce leur incrédulité, qui montre qu'ils sont du dehors. Nous voulons qu'ils entendent la parole intelligible qui leur permettra d'être sauvés. Voilà la logique de l'apôtre Paul, me semble-t-il, ici. Alors, certains se disent, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport spécial aux Juifs ? Donc, Paul n'en parle pas, mais peut-être quand même est-ce une pensée légitime ? Parce que c'était les Israélites qui étaient en cause en Ésaïe 28. Et entendre des langues de toutes sortes, pour des gens du peuple élu de l'Ancienne Alliance, dont Dieu avait choisi la langue pour parler par ses prophètes, les entendre parler dans toutes sortes de langues, en parthe, élamite, zoulou, etc. Mais c'est un signe de jugement pour eux, pour leur incrédulité juive spécialement. Je crois qu'on peut dire qu'il y a au moins là une pointe qui peut bien se trouver dans l'intention du signe. Et cela, on peut le voir spécialement le jour de la Pentecôte, où c'est justement les Juifs incrédules qui sont repoussés, qui ne saisissent rien, et où se fait la séparation en Israël entre ceux qui reconnaissent Jésus, qui se tournent vers lui, et ceux qui refusent. Et si nous admettons cette pensée, alors nous voyons la contrepartie positive. C'est d'une part un signe de jugement pour l'incrédulité, spécialement l'incrédulité des Juifs à l'époque de Jésus et ceux qui continuent d'être incrédules. Et en même temps, c'est le signe de l'ouverture à toutes les nations en riposte divine, pourrait-on dire, à cette incrédulité juive des bénéfices du salut et de l'alliance. Il me semble que c'est là la signification la plus évidente, après tout, du don des langues. Jusque-là, Dieu s'est contenté de l'hébreu, si vous voulez, bon, je simplifie bien sûr, mais à partir de la Pentecôte, c'est des hommes de toutes langues qui vont entrer dans l'Alliance et constituer le peuple de Dieu avec les Israélites croyants. Donc c'est un signe de l'universalité de l'Église, de l'ouverture de l'Alliance à toutes les nations. Et on a pu dire que c'est l'anti-Babel. À Babel, les langues ont été dispersées, les hommes ont été divisés les uns avec les autres, et Dieu, par ce miracle des langues, réunit ceux qui étaient séparés. Et c'est une sorte de prophétie du moment où toute division sera abolie entre les membres, les composantes du peuple de Dieu. Nous sommes un, mais nous vivons bien mal quand même cette unité. Nous avons parlé de l'unique corps du Christ. Mais viendra un jour où toute l'Église sera rassemblée dans le royaume de Dieu, festoyant au grand banquet des noces de l'agneau, et ce sera des peuples de toutes langues. L'Apocalypse le souligne. Et le don des langues est une sorte de prophétie, pourrait-on dire, de figure de cette parfaite unité dans la diversité. Il me semble que c'est là la signification principale. Alors pour qui, je n'ai plus que 2 ou 3 minutes pour répondre à cette question, pour qui ce don des langues ? Seulement pour les chrétiens du 1er siècle ? Il y a un certain nombre de théologiens qui croient cela. Et Calvin, par exemple, le pensait. Certains disent, à partir d'1 Corinthiens 13, oui, il est dit, les langues cesseront. Donc, elles ont cessé à la fin du 1er siècle avec les apôtres. Je ne crois pas que ce soit une bonne exégèse, une bonne interprétation de la Bible. Car ce qui est dit dans 1 Corinthiens 13, c'est que quand les langues cesseront, la connaissance aussi cessera, et les prophéties cesseront, etc. Et que ce qui est parfait arrivera, la perfection de la connaissance face à face. Nous connaîtrons comme Dieu nous connaît. Alors ça, c'est pas encore arrivé. C'est pas à la fin du 1er siècle que c'est arrivé. Donc je crois que c'est une façon là qui n'est pas vraiment sérieuse de reléguer au 1er siècle ce don. Il n'y a pas de raison de le reléguer au 1er siècle. Alors est-ce que ce serait pour tous ? Est-ce que tous devraient l'avoir ? Ça, c'est l'idée de certains de nos frères pentecôtistes, par exemple. Pour eux, tous ne l'ont pas, mais tous devraient l'avoir. Je crois de nouveau que les paroles de l'apôtre Paul que nous avons lues ne vont pas dans ce sens, puisque Paul souligne que ces dons sont distribués comme Dieu le veut, différents les uns des autres, et que tous ne parlent pas en langue. Tous y ont été pourtant baptisés dans le même esprit. Je crois que c'est un des dons, dans la diversité des dons, et que ce n'est donc pas un don nécessairement pour tous. Alors faut-il le rechercher pour soi ? Alors là, c'est le plus subtil. C'est là que la question devient plus délicate. Il me semble que l'apôtre Paul prend soin de ne dire nulle part de rechercher le don des langues. Bien qu'il reconnaisse que c'est un don de Dieu qui fait du bien, qui édifie et que lui-même le pratique. Il s'abstient de dire ça. Il dit aspirer aux dons les meilleurs. Et puis il va ensuite bien démontrer que ce n'est pas le meilleur. Et il conclut tout son développement en disant à la fin du chapitre 14, « Ainsi donc, frères, aspirez à prophétiser, n'empêchez pas de parler en langue. » Il ne va pas au-delà du « n'empêchez pas » dans cette conclusion qu'il donne. Il n'exhorte pas spécialement à rechercher. Je sais bien qu'il dit, au verset 5, « Je veux que vous parliez tous en langue. » Mais, comme les traducteurs de la Bible à la Colombe et de la Bible en français courant l'ont compris, je crois que c'est une forme de langage qui peut être en effet tout à fait reconnue par les gens compétents, c'est une clause de concession. « Je veux bien que vous parliez tous en langue. » Oui, si vous voulez parler en langue, c'est une chose bonne en elle-même. Donc, je veux bien. Exactement comme il dit au chapitre 7, verset 7, « Je veux exactement la même formule, que tous soient comme moi, célibataires. » Mais seulement chacun reçoit son don de la part de Dieu. Quand Paul dit « Je veux que tous soient célibataires », il ne veut pas dire que l'idéal serait que tous les chrétiens soient célibataires. Mais il dit « Voilà, quant à moi, aucune objection, hein, je suis célibataire, que tout le monde soit comme moi, je n'y vois pas d'objection. » Je crois que c'est cette forme de langage parallèle dans 1 Corinthiens 7, 7 et 14, 5 qu'il faut reconnaître. Et lorsque nous nous attachons donc à l'ensemble de son argumentation, nous voyons qu'il y a une réticence. Mais alors on peut dire, c'est parce que les Corinthiens, eux, étaient trop excités ou fascinés par le don du parler en langue. Si c'était adressé aux gens du tabernacle, peut-être aurait-il parlé autrement. Et on peut dire ça aussi. On n'a pas de preuve, mais c'est vrai qu'on peut envisager une chose de ce genre. Et puis d'autre part, c'est un don de la part du Seigneur. Alors pour ma part, bon, je dis au Seigneur il y a déjà bien des années, je dirais, je continuerai à lui dire, je ne te demande pas ce don, je n'essaie pas de le solliciter de ta part, sachant de toute façon que tu demeures souverain. Si tu jugeais bon de me l'accorder, si tu pensais qu'il est utile à mon ministère, à mon service, à la place où tu m'as mis, bon, ben, je ne veux pas le refuser. Il me semble que c'est une façon, en tout cas, sobre de se placer par rapport au désir ou à la recherche du parler en langue. Non pas le rechercher, puisque je n'y suis pas encouragé par le texte, mais en même temps pas le refuser, puisque c'est un don de Dieu qu'il pourrait vouloir donner et il n'y a pas à en avoir peur. Si quelqu'un l'a reçu sans le rechercher, ça arrive aussi assez souvent, alors je crois qu'il doit en rendre grâce et qu'il peut le pratiquer sans avoir de scrupules à cet égard. J'espère que c'est bien le don miraculeux du Saint-Esprit. Je crois qu'il y a des preuves qu'il existe aujourd'hui. Et si d'autres cas sont des cas de parler en langue purement psychique, je pense qu'il y a le vrai parler en langue miraculeux aujourd'hui aussi. Si quelqu'un l'a reçu, qu'il en rende grâce à tout. Si quelqu'un est convaincu devant le Seigneur qu'il doit le demander, qu'il le fasse aussi. Je ne peux pas juger non plus cela. Je ne le fais pas pour ma part. Je ne le demande pas, je n'insiste pas. Mais si quelqu'un est convaincu qu'il doit le faire, il est possible que le Seigneur le conduise de cette façon. En tout cas, ce qui est exclu alors, là, vraiment, je serais très très dur, parce que c'est se moquer du Saint-Esprit. C'est une tentative de forcer les choses. Ça existe aujourd'hui. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était M. Charlet, qui racontait, M. Eugène Charlet, qui a été donc ici au tabernacle, un serviteur de Dieu éminent. Il racontait comment il a été dégoûté du pentecôtisme, mais c'est pas tout le pentecôtisme qui est comme ça, hein. Parce qu'une fois, il a été dans une réunion où on apprenait à parler en langue. On disait aux gens, etc. Essayez, forcez-vous, etc. Forcez-vous, et puis abandonnez tout contrôle. Ça existe, parce qu'après ça, je me suis dit, mais c'est impossible que des gens fassent comme ça. Et puis j'ai vu que même des livres enseignent à faire comme ça. Donc certains, pas tous, hein, certains font comme ça. Alors ça, je dis, non, ça, c'est se moquer du Saint-Esprit. De la part de Dieu, ce don, il peut le pratiquer. Le pratiquer dans l'Église aussi. C'est là que les choses sont. Dans les réunions de l'Assemblée, je pense que nous ne pouvons pas au tabernacle. Ils ont tourné autour de cette parole si claire. N'empêchez pas, n'interdisez pas de parler en langue. Il s'agit là des réunions d'église. Si quelqu'un est là pour interpréter, s'il y a un interprète, je pense que nous ne pourrions pas, nous ne devrions pas interdire. En même temps, je pense pour ma part, à cause de toutes les fausses conceptions qui se sont greffées à se parler en langue dans notre siècle, et dont j'ai parlé tout à l'heure, à cause des réactions de crispation excessive que certains ont pu avoir aussi. Il y a des gens qui réagissent très émotivement. À cause de cela, il est peut-être plus sage que quelqu'un qui a le don de parler en langue ne l'exerce pas dans notre assemblée. Je pense que c'est dans l'intérêt de la paix fraternelle entre nous. N'interdisez pas, mais je ne pense pas qu'il serait indiqué spécialement d'essayer de le promouvoir comme un élément. Étant donné la manière dont l'apôtre Paul en parle, il ne recommande pas que l'on parle en langue dans l'assemblée, simplement il dit n'interdisez pas, et si quelqu'un le fait, alors qu'il y ait un interprète, sinon pas du tout. Voyez. À cause de cette attitude générale de l'apôtre et des conditions historiques qui sont les nôtres, moi je ne pense pas que je recommanderais à quelqu'un qui a le don de parler en langue parmi nous de le faire dans l'assemblée. Je crois qu'il y en a parmi nous, mais je ne pense pas. Je pense qu'ils ont bien fait jusqu'à présent d'avoir égard à la sensibilité de leurs frères et sœurs, de tenir compte aussi des problèmes de durée de notre culte. Et par conséquent, ce sera la conclusion pratique à laquelle j'aboutirai. Si quelqu'un l'a reçu, qu'il n'hésite pas à en rendre grâce au Seigneur et à le pratiquer. Mais je pense que pour le reste, nous ferons bien de nous rappeler que l'essentiel, c'est cette voie de l'amour qui est une voie d'égard mutuel, de renoncement à son propre plaisir pour le service des autres, pour le bien des autres. Et aussi, la voie qui nous permet de sélectionner les dons, à rechercher, à demander au Seigneur pour être plus utile à l'édification du corps. Voilà, merci d'avoir patienté un peu au-delà de l'heure. Je vous remercie. Que le Seigneur vous accompagne maintenant dans sa paix toute la semaine.